Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir ce soir. Donc vraiment, je voudrais vraiment remercier l'iBot, remercier Mola et remercier Cinémarge de m'avoir permis cette rencontre et aussi de m'avoir donné cette carte blanche. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler, pour changer, de genre, de questions trans, d'inégalité et de discrimination. Et donc, pour résumer, comme l'énonce Geneviève Fraisse dans Les excès du genre, l'exclusion a laissé place à la discrimination. C'est en étant à l'intérieur qu'on est discriminé. Mais tous les discriminés ne sont pas complètement entrés dans le champ des discriminations. Des figures comme les trans, les putes, les femmes voilées ou les roms, récemment apparues dans l'agenda politique, public et médiatique, expriment toujours un sentiment fort d'exclusion, c'est-à-dire également de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être écouté. Ici, la question médiatique doit être évidemment soulevée. Quelle image donne-t-on de moi ? Suis-je ne serait-ce qu'un peu représenté ? Aussi, pour certaines personnes racisées, être exclu est toujours un sentiment actif, notamment dans sa dimension urbaine, c'est-à-dire dans la ségrégation. Mais pas seulement. Jordan a 37 ans et il a cette phrase révélatrice. Avant, mon père, la France a l'exploité. Aujourd'hui, nous, on nous exploite même plus. Personne ne veut de nous. Pour Jordan, l'islamophobie, ou ce que François Dubé, dans son livre « Pourquoi moi ?», nomme également les discriminations totales, sont ici à l'œuvre. Toutefois, la diabolisation de l'autre ne se fait pas forcément sur des dimensions qui évaluent une personne ou un groupe comme trop différent, mais paradoxalement comme trop proche. L'histoire du mariage pour tous l'a bien montré. L'alter ego, celui qui demande l'égalité, devient ennemi en empiétant sur un territoire du neutre, de l'universel. La situation de rivalité, le retour du refoulé, pour le dire comme Didier Ribon dans Miroir, Miroir, naît paradoxalement d'une situation de proximité. Cette mise en évidence de la dimension relationnelle renvoie à ce que Paul Ricoeur souligne à travers l'expression « soi-même comme un autre » à entendre dans la double signification du « comme ». Il ne s'agit pas uniquement d'une comparaison « soi-même semblable à un ou une autre », mais bel et bien d'une implication « soi-même en tant que autre ». Dès lors, dans ces circonstances, comment lutter efficacement contre la discrimination ? L'histoire récente des mouvements de lutte contre les discriminations a emprunté trois voies qui jusque-là me semblent ne pas avoir totalement porté leurs fruits. La première consiste, comme nous le faisons souvent, à investir le domaine juridique, le front du droit, l'espace des lois est décisif. Les exemples du mariage pour tous et avant lui du droit à l'avortement montrent combien des vies se trouvent libérées en présence d'un droit qui les protège. Toutefois, le droit ne fait pas tout. Et la persistance des inégalités salariales entre hommes et femmes le montre bien. Le droit est une force statique, si l'on ne prend pas garde à constamment le tenir éveillé et conquérant. La seconde voie empruntée par les militantes et les militants se situe du côté des pratiques subversives. Ici, ce sont les espaces symboliques et corporels qui sont mobilisés afin de perturber les représentations et peut-être faire plier le réel afin d'y loger des vies jusque-là tues ou opprimées. Mais cette micro-politique de visibilité des luttes est d'une importance capitale si l'on s'intéresse un instant aux espaces qui sont rendus possibles par l'expression de ces corps, de ces désirs, mais également des paroles qui y sont tenues. Toutefois, c'est bien souvent l'alliance des pratiques subversives ou jugées comme telles et les mouvements de droit qui s'observent sur le terrain de la lutte contre les discriminations. Depuis quelques années, un troisième terrain apparaît. Il se focalise sur la lutte contre les stéréotypes qui, en duo avec un rappel du droit, forment une batterie de formation et s'engagent dans un combat contre la moindre discrimination et donc le moindre stéréotype. Pour être bref, ici, le hors-champ des contre-modèles, des contre-stéréotypes, est constitutif du champ qui l'a mis à l'écart. Paradoxalement, donc, lutter contre les stéréotypes pourrait devenir, sinon le parent pauvre de la lutte contre les discriminations, du moins le lieu de renforcement de certains autres stéréotypes si on n'y prend pas garde. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que récemment, j'ai assisté à une intervention en milieu scolaire où une association rappelait que tous les homosexuels n'étaient pas des folles. De la sorte, ce qu'a fait cette association, c'est par exemple invisibiliser les garçons qui portent des talons. Alors, je finirai par quelques éléments pour conclure cette introduction, parce que oui, ce n'est que l'introduction. D'abord, que cette question de la reconnaissance des discriminations ne fait pas tout. François Dubé le montre dans ses derniers livres. La solidarité touche ici à ses limites. En effet, si je veux bien qu'on me reconnaisse comme victime en échange d'une réparation, ce n'est pas pour autant que je souhaite cette même reconnaissance à autrui. La question des discriminations pose une équivalence a priori entre les catégories à protéger par le droit, mais loin d'unifier une approche plurielle des rapports sociaux, l'action publique et sociale sur la discrimination tend plutôt à les mettre en concurrence. Définitivement, donc, la question des discriminations est marquée par le sceau de l'incertain. Les discriminations n'offrent plus ou rarement de résolution, y compris dans l'arène du droit censée les juger. Elle convoque l'individu dans ses capacités subjectives, individuelles et groupales, sur la durée, dans la répétition et jusque dans leur aboutissement. Enfin, il me semble important de revenir sur la notion de visibilité et de représentativité qui sont au cœur de ce processus de lutte contre le sentiment de discrimination. Peut-être est-ce le point méthodologique le plus brûlant, et celui sur lequel je voudrais enfin insister, la question de l'égalité des chances est intrinsèquement liée à celle des places disponibles. En régime de crise, de l'emploi, du budget, des logements, une nouvelle répartition non discriminante des places et des visibilités nécessite de prendre en considération des privilèges de certains face à un relatif déficit accumulé par d'autres. Dans les enquêtes que je mène actuellement, quelques témoignages ont bien signifié que la perte relative d'un privilège est difficile à accepter, à comprendre, à compenser. Des termes de racisme anti-blanc, d'hétérophobie ou de sexisme inversé sont employés. Mais il est épistémologiquement évidemment impossible, dans ce contexte donné, de mettre sur le même plan les comportements homophobes et l'invention de l'hétérophobie. Les femmes battues et le tout aussi suspect sexisme inversé, le taux d'insultes racistes et ce qui est nommé le racisme anti-blanc. Ce que soulignent ces expressions, c'est précisément le passage d'un monde où les discriminations pouvaient être réalisées, où les discriminantes et les discriminants pouvaient discriminer, à un monde dans lequel les évidences de la nature, des traditions, ne suffisent plus à classer qui sont les autres. L'apprentissage des termes et des comportements antidiscriminants se couple obligatoirement donc d'un désapprentissage de nos propres privilèges. La discrimination, aujourd'hui, me semble-t-il, sur les figures extrêmes que sont les putes, les trans ou les femmes voilées, n'est plus une discrimination rationalisée. On entend rarement, comme c'est le cas par exemple pour une femme enceinte, un employeur trouver une argumentation rationnelle sur pourquoi la femme voilée le dégoûte, pourquoi il faut cracher sur les homosexuels ou pourquoi les putes sont vraiment des personnes ignobles. Au fond, cette discrimination, elle est déchaînée, au sens où elle ne s'enracine plus, sinon dans l'émotion spontanée et débordée, dans les deux sens du terme du débordement, par l'affolement des privilèges, justement, qui sont déstabilisés et des réactions vives qui en découlent. Le dégoût, puisque c'est de lui dont il s'agit lorsqu'on parle des stigmates encore vifs, des déchets de l'humanité, pour reprendre le terme de Bauman à l'écart des exclus, le dégoût est donc l'une des affections les plus violentes du système perceptif, je suis déjà sous. Les sens sont touchés avec une immédiateté qui les entraîne irrésistiblement à l'écart de cet objet qui dégoûte, à détourner le regard, à se boucher les narines, à s'éloigner physiquement afin d'éviter la mise en contact ou la contiguïté avec le dégoûtant. Aurèle Cornaille propose dans un essai philosophique de 1929 l'hypothèse que les objets du dégoût auraient ceci en commun qu'ils renverraient à l'expérience concrète du trépas, dans ce moment précis d'excès de vie, de chair en putréfaction, de la vie en train de s'éteindre, les objets seraient des choses animées, entre la vie et la mort. En effet, le dégoût se manifeste par, je cite, une réaction plus somatique que psychique devant un type d'objet présentant une certaine qualité matérielle, comme par exemple le visqueux, le gluant. Le dégoût ne s'attache jamais au non-organique, à l'inanimé. Ce n'est pas le squelette qui nous dégoûte. C'est le cadavre encore chaud, ou la chair en putréfaction, animée d'animaux grouillants de vie. Nous n'avons pas d'aversion pour les déchets, mais pour l'éclat de la pourriture, avec ses odeurs, avec ses couleurs criardes, sa vitalité, au fond, son intensification de la vie. Ce n'est pas l'excrément séché qui nous révulse, mais la matière fécale, fumante, odorante. La putrescence du vide, nous dit Corneille. Le dégoût s'expérimente donc dans la peur de la contagion, dans le miroir du semblable. C'est ce que met en exergue Brigitte Belbeau dans le livre Genre. Et pour le dire comme Brigitte Belbeau dans le livre Genre, ce qui peut nous occuper dans le cadre d'une politique de l'éducation à travers les marges de manœuvre dont dispose la société pour influencer la direction que prend le dégoût, ce n'est pas de revendiquer quelque chose au nom d'une société juste, on ne sait jamais ce qu'est une société juste, mais plus simplement de lutter contre ce qui apparaît d'emblée comme totalement injuste. C'est-à-dire l'exclusion d'une part des humains, quel que soit cet humain et quelle que soit cette part de l'humanité. Dès lors, vouloir éduquer les émotions afin qu'elles puissent être orientées de telle sorte qu'elles ne restreignent pas le champ de l'humain implique de garder présent à l'esprit que la vulnérabilité de nos vies n'est pas ce contre quoi il faudrait lutter à tout prix en promouvant une éducation à l'invisibilité, mais plutôt à la porosité avec autrui. J'aimerais à présent, et à partir de ce qui vient d'être dit, poser mon regard sur le thème qui nous rassemble aujourd'hui, la question trans et ses difficultés à ne pas être traitées autrement que par des émotions vives, des révulsions et du dégoût. Posons la question, qui sont les cis ? Les premiers essais sur la question trans laissent peu de place à ce terme que je vais définir. Dans son mémoire de master intitulé « Ethnopsychiatrie, théorie queer et transsexualisme », Tom Rusher, psychologue, n'en parle pas. Pas plus d'ailleurs que Maxime Foster dans son « Histoire des transsexuels ». Voici donc les deux premières œuvres sur la question trans en France qui ne parlent pas de ce privilège de la question cis. C'est un peu moins vrai dans les livres qui vont suivre, notamment celui de Stéphanie Nico qui va définir la question cis comme suit. C'est une personne dont le genre concorde, grosso modo, avec son sexe, c'est-à-dire une personne qui n'est pas transgenre. Par exemple, une personne possédant un corps femelle et se sentant comme femme. C'est d'ailleurs cette définition que décident de reprendre par la suite des associations, mais aussi, 2 ans plus tard, Karine Espineira. Dans un de ses livres sur la production médiatique des figures trans, avec sa compagne, Maud Yestoma, qui reprendra cette définition des personnes cis, à savoir ce schéma dit de la coïncidence sexe-genre. On entrevoit déjà, mais nous y reviendrons, la difficulté à déterminer une fois pour toutes, comme une partition irréfragable, une frontière nette entre les trans et les non-trans. Situer, par exemple, où sont les folles, comme le montre Jean-Yves Le Talec dans son livre « Folles de France ». Jean-Yves Le Talec, dans « Folles de France », qui note le paradoxe suivant, selon lequel les folles, aujourd'hui, sont devenues invisibles. Ou bien, pour préciser une nouvelle population qui entre dans l'agenda politique, la question intersexe, comme le montre Vincent Guillot dans le livre « Géographie des homophobies ». Internet propage le terme de cisgenre. En 2011, le chapitre du livre de Julia Serrano « Weeping Girl », qui vient juste d'être traduit en français, insiste sur le fait de démanteler notre privilège cisgenre. Dans son blog, la militante Cassidy revient sur une série américaine, laquelle utilise un, je cite, « bon vieux cliché, un peu éculé, de mec hétéro qui découvre qu'il a couché avec une personne trans et donc qui vomit ». L'auteur tourne en dérision cette représentation transphobe et écrit « pitié, si vous vous sentez vraiment obligé de caser une blague avec la révélation de la transidentité et du vomi, essayez au moins de faire vaguement original. » Quelques variations possibles sur le mec hétéro, cisgenre, qui rencontre une fille trans. Première variation possible. A est trans et l'annonce en voiture à B. B le prend bien, mais est malade en voiture. Et du coup, B vomit. Deuxième explication. A est trans et C vient de l'annoncer à B, histoire de la discréditer auprès d'elle. B vomit donc sur C. Troisième exemple. B flash sur A parce qu'elle croit qu'elle est trans. A annonce qu'elle est cisgenre à B. B vomit. Mais au-delà des positions théoriques et du militantisme, l'expression cis semble s'enraciner dans des expériences nouvelles, comme le prouvent les rencontres cis-trans, notamment les rencontres cis-trans-PD, qui sont organisées à Lille, mais aussi à Paris, dans des groupes qui permettent ainsi, de manière non maltraitante, des rencontres entre cis et trans. Cependant, nous pourrions questionner la porosité de ces catégories, leur herméticité, à la manière d'Ev Kosofsky-Sedgwick dans son épistémologie du placard. Dans son épistémologie du placard, Ev Kosofsky-Sedgwick retient que le placard n'est pas un lieu hermétique qui confinerait pour les uns comme pour les autres, pour les hétéros comme pour les homos, pour les trans comme pour les cis, des connaissances du dedans et une peur du dehors. Le placard est un lieu de passage du pouvoir exercé dehors qui n'exclut pas une capacité d'agir du dedans. En ce sens, le placard n'est pas seulement cette image servant à désigner une honte, un secret, un dégoût, mais il suggère plus amplement un dispositif sous-jacent à chacune de nos identités de genre et de sexualité. C'est pourquoi la question trans et la question cis se rejoignent ainsi de manière parfois non oppositionnelle. Moi, trans, mais t'as vu mon passing, je suis plus cis que toi, me répond souvent une amie quand je lui parle de transidentité. Il existe donc des failles dans cette répartition, et ce sont celles qui suggèrent l'intervention d'une nouvelle grille d'analyse. L'enjeu épistémologique de cette observation sur l'invention du terme cis relève aussi de la queerisation mise en avant par Marie-Hélène Boursier dans son livre Queer Zone, qui permet de ne pas réifier les catégories de cis alors même que la catégorie trans s'affaiblit au profit de parcours variés, singuliers, irréductible à la binarité, et encore moins à la génitalité, et encore moins réassignée. Les folles ou les butch sont-elles cis? C'est pourquoi, pour conclure, plus qu'une réflexion sur la cis-identité, il me semble approprié de poser la question de l'assimilation aux normes de genre, que l'on pourrait étendre aux normes de l'ethnicité. Les noirs tués aux États-Unis ne sont plus des dérapages, mais des régularités. Mais également aux normes de corps et de sexualité, où les putes sont en première ligne. On sait qu'en imposant les cadres de l'intégration, elles élaguent ces conditions de l'intégration et ces conditions du vivre ensemble des pans entiers de l'humanité. Dans cette perspective, où les bons inclus seraient celles et ceux, et seulement celles et ceux qui auraient fait l'effort de l'acculturation hétérosexuelle, cis, républicaine ou laïque, nous serions en mesure d'interroger ce principe d'intégration excluant. Et pour le dire autrement, au vu du coût de cette assimilation, je pose la question suivante. Sommes-nous toutes et tous prêts à ne plus jamais provoquer du dégoût? Merci beaucoup.